contre-7, puisque ici au Pays Basque, il y a en tout une centaine d'organisations. En fait, il y a deux plateformes, une plateforme basque, G7S, donc G7 non, avec une cinquantaine d'organisations, de syndicats, de mouvements politiques, hein. Également une plateforme nationale alternative donc au G7, qui se sont réunis, rassemblés, et qui ont donc construit un programme contre ce G7. D'abord, ce G7, on n'en attend rien, hein, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, bien qu'il coûte un pognon de dingue, comme dirait Macron, il ferait mieux le consacrer cet argent peut-être à financer les services des urgences qui sont en lutte depuis pas mal de temps, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, ce G7, on n'attend pas grand-chose. Il y a toujours effectivement de grandes déclarations, de grands blabla, mais rien au niveau des actes. Hein. On voit bien que même sur la question du GAFA, qui était l'un des grands enjeux, quand même, à taxer les Google, Apple et consorts, qui font plein de profits et qui ne payent pas d'impôts, et bien là-dessus, il y a une reculade, parce que finalement, on va peut-être l'appliquer, mais ce sera remboursé, et puis c'est remis à plus tard, à l'année prochaine, ou à je ne sais pas quand. Donc, moi, j'étais effectivement sur ce contre le 7. Donc, il y a eu déjà la semaine dernière 3 journées très, très intenses, hein, avec des conférences, des ateliers, des débats qui se sont déroulés entre Hendaye, où il y avait 3 sites, et Irun, donc un centre des congrès d'Irun, de l'autre côté de la Bidassoa, de la frontière, entre guillemets, puisque en fait, pour nous, c'est le Pays Basque de côté. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, de symbolique. Effectivement, ces actions se sont déroulées des deux côtés de la Bidassoa, mais du Pays Basque Nord au Pays Basque Nord et au Pays Basque Sud. Donc, en tout, il y a eu, je crois, 98 ateliers et conférences, débats, etc. Plus de 6000 personnes qui ont participé à ces différentes activités. Et quelque chose de très très riche, avec tous les thèmes ont été abordés, hein. On fera une émission plus complète dans quelques jours, mais tous les thèmes ont été abordés, l'écologie bien sûr, les questions féministes, les inégalités, mais vraiment la véritable lutte contre les inégalités dans le monde entier, hein, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. La question aussi du Pays Basque, parce que ce G7 et donc le contre-G7 se déroule au Pays Basque, qui est une terre de lutte depuis très très longtemps et qui s'est engagé depuis pas mal de temps maintenant dans un processus de paix. Donc après des années de violence, hein, l'une des deux parties, c'est-à-dire l'ETA, l'organisation ETA, c'est la lutte armée depuis un certain temps, s'est engagé donc dans un combat uniquement pacifique. Enfin, le Pays Basque, le peuple basque s'est engagé dans un combat uniquement pacifique et démocratique. L'organisation ETA elle-même s'est dissoute l'année dernière. Et c'est quelque chose qui est soutenu par l'ensemble de la société civile basque. D'ailleurs, c'est quelque chose que Macron lui-même, lors de sa visite le mois dernier au Pays Basque, avait souligné en disant qu'il fallait accompagner ce mouvement en faveur du processus de paix. Mais en fait, il fait exactement le contraire, puisque toutes les décisions qui sont prises en ce moment, elles vont à l'encontre de ce processus. Refus des prisonniers, libération des prisonniers malades, refus d'accorder les libérations conditionnelles aux prisonnières et prisonniers qui ont en pourtant le droit légal. Voilà. Donc, c'était aussi important de montrer cet aspect des choses ici au Pays Basque. Alors après, ces 3 jours de conférences, de débats, mercredi, jeudi, vendredi, il y a eu une grande manifestation qui a parcouru les rues d'Hendaye, donc d'Hendaye à Irun, où il y avait 15 000 participants selon les organisateurs et 10 000 selon la police, donc on n'est pas très loin. Donc beaucoup, beaucoup de monde, c'est quand même un événement exceptionnel ici. Et il y avait d'autres actions qui étaient prévues, en particulier des rassemblements sur les places du Pays Basque, des rassemblements arc-en-ciel, et compte tenu de la pression policière extrême, et c'était vraiment quelque chose qu'on a subi de façon très, très forte ici au Pays Basque, on a supprimé donc ces actions. Pour faire uniquement une conférence de presse, c'était hier midi, à Biarritz même, donc on s'approche plus près de la zone interdite, la zone rouge, archi protégée et surveillée par l'armée, la police, etc. Donc on a fait cette conférence de presse avec les organisateurs du contre-sommet, les plateformes, et ensuite on s'est dirigé vers la zone rouge elle-même, donc à quelques centaines de mètres de là. Et bien sûr, on a été arrêté par un cordon épais de policiers et on n'a pas pu aller plus loin. On a donc fait un sitting sur place pour de 7 minutes qui correspond aux 7 sujets qui ont été défendus pendant ce contre-sommet. C'est un sitting de 7 minutes pour manifester effectivement cette lutte qu'on mène face aux grandes puissances de ce monde, parce que finalement, le G7, c'est quoi? C'est 7 pays qui sont autoproclamés les plus riches de la planète. J'ai fait la semaine dernière d'ailleurs un entretien avec un membre d'une organisation des droits humains africaine du Burkina Faso, et on a bien vu la semaine dernière comment les richesses de ces pays-là, elles se sont faites sur le dos de pays, par exemple le Burkina Faso, avec le pillage des réserves d'or, par exemple. Donc je vous propose peut-être tout de suite d'écouter la conférence de presse que j'ai enregistrée hier midi. Alors elle a été réalisée en euskera, en basque, en français et en espagnol, mais on va seulement écouter maintenant, après une toute petite introduction, j'ai dû la garder quelques secondes de basque, et ensuite c'est donc l'intervention qui a été faite en français. On passe à l'écoute de cet enregistrement, puis ensuite je reviendrai pour parler d'autres aspects de ce qui s'est passé ici au Pays Basque, et notamment de la violence et de l'attitude qu'a eu la police vis-à-vis de, par exemple, de journalistes et d'observateurs internationaux. Tu veux bien lancer l'enregistrement?
C'est parti.
Mila esker ona etorririk. Irakurketa bat egingo dut. G7PS eta Alternative G7 plataformak G7-pionen inguruko irakurketa politikoa adierazi nahi dugu.
Déclaration d'illégitimité du G7. Alors que le G7 s'achève ce lundi 26 août et qu'a priori aucune déclaration commune ne sera réalisée, les plateformes Alternative G7 et G7-ES livrent leur déclaration d'illégitimité du G7. Premièrement, face à l'urgence au désastre écologique. Nous, plateformes Alternative G7 et G7-ES, sommes réunis devant la Cité de l'Océan. Emmanuel Macron a osé prononcer la phrase suivante pendant le G7. « Nous devons répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle, nous sommes amazoniens ». C'est cette chef d'État, véritable pyromane de la planète, prétendent vouloir éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes engendré. Extraction massive d'énergie fossile, déforestation, agro-industrie, pollution de tous les milieux naturels, les multinationales sont les premières responsables de ces désastres écologiques et les pyromanes du G7 les soutiennent. Dans son allocution, Emmanuel Macron a aussi annoncé « Nous devons œuvrer pour avoir toujours plus de croissance ». Mais non, monsieur Macron, il faut transformer radicalement notre modèle économique pour répondre aux impératifs écologiques. Et la croissance ne peut être un objectif en soi. Face aux désastres écologiques, il est urgent de prendre des mesures drastiques, entre autres, le désinvestissement massif des énergies fossiles, une taxation réelle efficace des grands pollueurs industriels, la fin de tous les projets et activités nocifs, autoroutes, nucléaires, agro-industrie et d'autres, la relocalisation forte de toutes les activités, le développement massif des transports en commun gratuits, la création de millions d'emplois dans des activités utiles pour l'environnement, etc. Ça, c'était la première de nos 7 accusations et de nos 7 revendications. Deuxièmement, face aux dégâts du libre-échange commercial, le très conservateur Boris Johnson s'apprête à signer avec Donald Trump un très grand accord commercial, plus grand qu'il n'y en a jamais eu. Ces deux défenseurs du business as usual s'apprêtent à mettre sur pied un accord de commerce dramatique qui va aggraver les inégalités et le désastre écologique. Et ce ne sont pas les seuls. Les 7 chefs d'État du G7 sont des champions des accords de libre-échange signés par dizaines et dizaines. Nous proposons l'abolition de ces accords, destructeurs du climat, de l'emploi, de l'agriculture, de la démocratie et de la souveraineté des peuples, à commencer par le CETA et le Mercosur. Troisièmement, face aux besoins d'une régulation internationale et démocratique, le slogan suivant a été largement affiché pendant le G7 et notamment sur son site officiel. La mondialisation a eu des effets bénéfiques en tirant une grande partie de la population mondiale de l'extrême pauvreté. C'est un véritable mensonge et une provocation. La mondialisation néolibérale a aggravé les inégalités dans la plupart des pays du monde. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, l'extrême pauvreté augmente dans beaucoup de régions. Nous voulons une régulation multilatérale qui prend en compte la diversité des peuples, qui inclut tous les pays du monde et qui soit fondée sur la solidarité, le respect des droits humains, la réponse à l'urgence écologique. Quatrièmement, face au rapport de domination patriarcale, les puissances qui sont réunies au sein du G7 affirment ceci. Elles veulent adopter et mettre en œuvre des cadres législatifs qui font avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ajoutent « Notre priorité sera de lutter contre les inégalités sans renoncer à la mondialisation néolibérale, mais en la régulant mieux ». Nous, nous constatons que cette mondialisation néolibérale, elle a mondialisé et généralisé l'autoritarisme, la guerre, les inégalités sociales, la pauvreté et la précarité, qui sont autant de situations qui affectent directement les conditions de vie des femmes et nos communautés. La mondialisation néolibérale est fondée sur l'exploitation et le travail non reconnu ou mal valorisé des femmes. Nous accusons les puissances du G7 d'hypocrisie. Pendant qu'ils réalisent de fausses promesses, qu'ils organisent une sortie folklorisée, caricaturant les femmes et le territoire du Pays basque. Au contre-G7, nous avons porté la nécessité d'une société radicalement féministe, débarrassée de la domination patriarcale. Une journée entière du contre-sommet a été dédiée à ces enjeux féministes et une veille et un dispositif conséquent ont été mis en place pendant tout le contre-sommet pour prévenir toute agression sexiste ou sexuelle. Cinquièmement, face à l'hégémonie des multinationales. Voici ce qui a été prononcé au G7. On a réussi à engager des dizaines de grandes entreprises pour que le but de l'entreprise, ce ne soit pas seulement faire du profit pour les actionnaires, mais qu'elles s'engagent elles-mêmes dans leur quotidien à œuvrer pour plus d'égalité. Et bien pourtant, on a appris juste avant le lancement du G7 qu'à l'échelle mondiale, un record absolu de versement de dividendes aux actionnaires avait été battu, avec plus de 513,8 milliards de dollars versés aux actionnaires au premier trimestre. L'Oréal, Engie, Orange, Suez, toutes ces multinationales ont été étroitement associées à ce sommet, ce qui démontre une nouvelle fois la connivence entre Emmanuel Macron et les multinationales. Il est urgent de désarmer ces multinationales et de mettre un terme à leur impunité pour financer l'intérêt général plutôt que de rémunérer les actionnaires. Sixièmement, face au dumping et l'évasion fiscale, Emmanuel Macron nous déclare à propos de la taxe GAFA « Nous, on ne souhaite pas garder notre taxe, elle est très imparfaite notre taxe ». Alors oui, cette taxe, elle est imparfaite, hein, elle est même tout à fait insuffisante. Mais Emmanuel Macron propose tout simplement de la supprimer, de supprimer le peu qu'il y a. Il se couche ainsi devant Donald Trump pour calmer les pressions autour de cette taxe adoptée en France. Nous proposons, nous, une taxation unitaire des multinationales en fonction de leurs activités réelles et une taxation efficace des transactions financières. Toutes ces mesures peuvent être mises en œuvre dès demain. Par chaque pays du G7, il ne manque que leur volonté politique. Septièmement, face à la multiplication des guerres, l'accord avec l'Allemagne autour du conflit au Sahel a pour ambition de présenter Macron sur la scène internationale comme un médiateur, un facteur de paix. En réalité, cet accord n'intervient que pour protéger les intérêts stratégiques et économiques de la France et de l'Allemagne dans la région. Le résultat est désastreux. C'est la déstabilisation de toute la corne du Sahel et du Golfe qui est en cours. Contrairement à tous les beaux discours, pour la France comme pour les autres, cet exemple illustre à quel point la géopolitique du G7 engendre militarisation et conflit. Le gouvernement français, par ailleurs, comme son homologue espagnol, est incapable d'apporter des solutions aux aspirations du peuple basque et les centaines de prisonniers politiques au Pays basque sont vécus comme une provocation supplémentaire. Dans le même temps, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Donald Trump et les autres sont en train de bâtir des murs partout sur la planète et de faire de la Méditerranée un véritable cimetière, au mépris du droit international et des droits humains fondamentaux. Nos gouvernements sont ainsi responsables directement de dizaines de milliers de morts et de la détresse de millions de personnes qui fuient les conséquences de leur politique. C'est contre cela que nous luttons. Contre cela que nous défendons des valeurs fortes de solidarité, de liberté de circulation et d'installation. En conclusion, nous devons reconnaître une chose quand même, c'est qu'Emmanuel Macron a connu un moment de lucidité lors de ce G7, quand il a prononcé la phrase suivante. Nous ne réussirons sans doute pas sur tout. Effectivement, ils n'ont réussi sur rien. Ce système en faveur des plus riches et des multinationales va perdurer et le G7 n'y a rien changé. Ces derniers jours, deux mondes étaient à l'œuvre au Pays Basque. D'une part, celui de l'élite économique et politique présente à Biarritz, rempli d'hypocrisie, inefficace face aux défis mondiaux auxquels est confrontée l'humanité. D'autre part, celui des mouvements sociaux qui prend en compte la réalité quotidienne de la majorité sociale et engagée sur des valeurs et alternatives progressistes et responsables. Merci. Alors, je vous explique ce qu'on va faire à présent. Donc, on vous propose de nous rendre au plus proche du sommet officiel. On va emprunter à pied le chemin en face jusqu'à la place Beau Rivage. Et on va y déclarer l'illégitimité du G7. Et si jamais on rencontrait des représentants du G7, nous ne négocierons rien avec eux. Nous les accuserons publiquement d'illégitimité et nous leur remettrons notre déclaration.
Orain saiatuko dugu albezain bat hurbiltzea aruntza eta argi eta garbi esango dugu haien G7a ilegitimoa dela. Ez dugu ezer negoziatuko haiekin eta gure deklarapenak emango diegu.
Oui, tout à fait.
Oui, voilà. Donc, je reviens. Alors, j'ai fait volontairement donc, l'enregistrement de la manif. Vous avez donc entendu qu'elle n'a pas duré très longtemps. On a vite été bloqué par les forces de l'ordre. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce sitting. Vous avez entendu d'ailleurs que dans les revendications, hein, dans les écrits, il y avait en particulier la demande de libération parce qu'il y a eu effectivement pas mal de gens qui ont été arrêtés pendant ce contre. Dans le G7 et contre le G7. Donc, moins que ce qu'ils avaient annoncé, parce qu'ils avaient prévu énormément de places, y compris à Anda. Ils avaient aménagé, ils avaient vidé le centre de rétention qui est habituellement donc, destiné aux immigrés qui essayent de passer la frontière. Mais là, c'était prévu pour enfermer tous ceux qu'ils arrêtaient pendant ce contre le G7. Pour revenir effectivement à ce que venait de dire une des porte-parole dans cette conférence de presse, il y a quelque chose en particulier, moi, qui m'a frappé dans le contre-geste, c'était le thème de l'égalité homme-femme. Parce que c'est l'un des sujets que voulait défendre Macron. Hein. Il avait déclaré, c'était il n'y a pas très longtemps, les femmes et les filles. Je vous cite Macron quand même. C'est important quand même d'entendre, on écoute ce qu'il dit. Les femmes et les filles sont les premières touchées par la pauvreté, les conflits, les conséquences du réchauffement climatique et sont les premières victimes des violences sexistes et sexuelles qui les empêchent trop souvent de circuler librement, de travailler, de disposer de leur corps selon leur choix. C'est pas mal hein, quand même pour eux. Et du Macron, mais du Macron uniquement dans les paroles parce que dans les actes, ben, c'est le contraire. Hein. Si on prend par exemple le budget du secrétaire d'État de Schiappa, qui est déjà le plus petit budget de l'État, eh ben, il va être encore réduit l'année prochaine. Et puis tous les droits qui ont été acquis avec de hautes luttes, hein, eh ben, sont mis souvent en question. Bon, parce qu'il se passe en Italie avec Salvini, qui s'en prend aux droits des femmes. Aux États-Unis, il y a énormément de restrictions au droit d'avortement. Il y a, je crois, 53 qui ont été adoptées par les États, donc les États-Unis cette année. Le soutien aux États-Unis, toujours le soutien financier au centre de planning familial, eh ben, c'est supprimé, etc. Donc avant de parler de grands projets comme ça, ben, ils commencent à faire évoluer peut-être leur politique, mais ça, on n'y croit pas trop. Il faudra qu'on prenne nous-mêmes les choses en main. Je voulais, par rapport à ce sommet, donc ce G7, parler de quelque chose. C'est quelque chose qui est quand même de plus en plus fort, on le voit bien, depuis l'affaire des Gilets jaunes, mais c'est sans Gilets jaunes, et même ça venait même d'avant. Il y a une aggravation de l'état policier en France. Et on voit que ça touche pas seulement les manifestants, mais aussi les journalistes et les observateurs des droits. Dans le cas donc des mobilisations du G7, que ce soit à Bayonne ou à Bidart, les forces de l'ordre, elles ont entravé souvent le travail des journalistes et des observateurs des droits et des libertés. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme. Alors, en dehors de la manif dont je parlais tout à l'heure de samedi dernier à Hendaye, qui s'est déroulée sans heurts, c'est vrai qu'on avait un service d'ordre des plateformes qui était très, très, très organisé. En dehors de cette manif, donc la présence policière a été constante tout le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les rassemblements d'arc-en-ciel hein, sur cette place autour de Biarritz avaient été supprimés parce que c'était impossible. C'était la provocation en permanence, la provocation policière. Par exemple, la ville de Bayonne a été quadrillée tout le long du week-end. Les journalistes, ils ont été contrôlés à chaque fois. Ils fouillaient. Des membres de la Ligue des droits de l'homme et d'Amnesty International, on les a empêchés de poursuivre leur mission d'observation des libertés humaines et des pratiques policières. Dans le samedi dernier, à l'entrée du Petit Bayonne, les journalistes se sont vus, on leur a confisqué leur matériel de protection. Un journaliste que j'ai rencontré ce matin, un journaliste de Belia, et qui est Mundi, il a été braqué, mais il a eu presque la peur de sa vie. Il a été braqué avec une mitraillette, par les agents de la BAC, je crois. Il disait, voilà, des unités de la BAC viennent de me braquer plusieurs fois dans les rues de Bayonne, alors qu'il montrait sa carte de journaliste. Hein, c'est une vraie carte de journaliste. Hein. Voilà, où est-ce qu'il y a la liberté de la presse ici? Il y a un autre média, c'est le média Cerveau Non Disponible, CND, qui a envoyé un message, c'était samedi, Et il disait que deux reporters, donc de Cerveau Non Disponible, de ce média, ne donnaient plus de nouvelles depuis pas mal de temps. Ils pensaient qu'ils étaient en garde à vue, mais aucune nouvelle. Voilà. Le soir du 24 à Bayonne, il y a des observatrices de la Ligue des droits de l'homme qui ont été interpellées. D'ailleurs, je vais vous lire le communiqué de l'LDH à ce sujet. Donc, je lis le communiqué. Hein. Dans le cadre du sommet anti-G7 à Bayonne, ce samedi 24 août, plusieurs membres de la Ligue des droits de l'homme, LDH, ont été abusivement arrêtés à la suite d'un contrôle d'identité alors qu'elles y assistaient comme observatrices des pratiques policières dûment identifiées avec leur chasuble de la LDH. Éléonore, membre de la direction nationale de la LDH, Camille et Nati ont été placés en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations en raison de sa possession de matériel de protection de leur sac. Donc il s'agissait de casques et de lunettes. Hein. La LDH dénonce fermement ces tentatives d'intimidation et ces procédures autorisées par le procureur de la République de Bayonne qui visent à dissuader des missions d'observation citoyenne qui sont organisées par la LDH et ses partenaires depuis plusieurs mois lors des mouvements sociaux afin d'éclairer les stratégies de maintien de l'ordre et les violences connues sur la base de faits dûment constatés. Voilà. Et il y a eu d'autres événements. Le dimanche, par exemple, sur le parking d'un supermarché de Bidart, alors que les Gilets jaunes tentent un rassemblement, qui a été tué d'ailleurs par une horde vraiment véritablement de forces de l'ordre, eh ben, ce sont deux observatrices d'Amnesty qui ont été à leur tour aussi, elles, contrôlées, bloquées pendant plusieurs heures. Elles ont tweeté d'ailleurs cette information. Voilà, ça c'est pour souligner effectivement non seulement la présence policière, mais l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis pas seulement des manifestants, mais aussi des observateurs. Il y a aussi des médias, étrangers hein, qui ont été victimes de ce genre de pratiques. Voilà, donc avant de te rendre l'antenne, Jonathan, je voulais aussi dire qu'il y a eu un autre événement, c'est la réapparition des portraits d'Emmanuel Macron. Vous savez que depuis pas mal de temps, donc il y a des opérations se sont déroulées dans pas mal de mairies. Et donc, les portraits de Macron ont été empruntés. Et donc, certains ont réapparu dans les rues de Bayonne. C'était dimanche 25 août. Je souligne d'ailleurs qu'il y a des procès qui sont en vue par rapport à ces actions de résistance civile. Voilà. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi. Je vais rendre l'antenne. Jonathan, tu m'entends ?
Oui, tout à fait. Voilà. Merci, Erwan.
Voilà. Et puis, de toute façon, très bientôt, on fera une émission. On n'a pas encore convenu de la date, mais on fera une émission spéciale avec d'autres participants, d'autres intervenants sur FPP, sur ce contre-sommet, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très, très riche. Et s'il y a quelque chose à attendre de l'avenir, c'est bien de la lutte du peuple, la lutte des peuples, et pour le peuple et pour les peuples.
Oui, il faut encore se mobiliser.
Voilà.
Donc, encore et toujours.
Voilà. Agur Zendali, comme on dit en basque. Hein. Au revoir et à bientôt.
Ciao, merci. Ciao. Au revoir. À bientôt.
G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7, la dissolution.
L'utilité du G7, personne n'y croit plus. Le G7, personne n'en veut plus. C'est un gaspillage d'argent public et la meilleure solution est sa dissolution pure et simple.
G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7,